proposer ce soir, je vais essayer de répondre à plusieurs questions qui ont été posées dans les groupes, notamment sur l'énergie. Et une autre question, ou plutôt une remarque, qui disait que très souvent, cette personne remarquait que la méditation était superficielle et comment est-ce qu'on pouvait l'approfondir. Qu'est-ce qui fait que on passe du niveau conceptuel à un niveau de vérité. Et donc, l'enseignement de ce soir va comporter sur plusieurs éléments. Regroupés dans un enseignement du Bouddha, qui s'appelle les cinq facultés spirituelles, et je vais en parler ce soir. Je crois que je vais en parler. Je vais parler des trois premières facultés spirituelles. Ce sont des qualités de la conscience que nous avons tous, mais que nous développons grâce à ce parcours méditatif, spirituel, on peut dire. Et c'est ces qualités-là qui permettent que le chemin s'approfondisse et atteigne la sagesse, sagesse intuitive. Donc, si on veut la sagesse intuitive ici, se comporte de trois réalités. Et je crois que Charles les a mentionnées hier soir. La réalité du fait de voir et de comprendre que tout est impermanent, absolument pas solide, contrairement à l'apparence. Que tout est insatisfaisant. Dukkha, parce que justement ça change et qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur la réalité. Et la troisième des compréhensions au niveau de la sagesse intuitive, c'est le fait de comprendre qu'il n'y a pas d'entité permanente qui loge en nous. Et donc c'est un leurre que de croire qu'il y a un moi, un je, une personnalité permanente. C'est un jeu d'éléments qui, selon les composés, selon la cause et l'effet, se manifeste et se transforme à chaque instant. Donc voilà ce que veut dire sagesse. Donc le cinquième de ces facultés spirituelles ou pouvoir de l'esprit est la sagesse. Comment est-ce qu'on y arrive? Par le parcours méditatif que nous vous proposons ici. Et l'histoire commence avec la foi ou la confiance. Le mot foi est utilisé en termes bouddhiques. Et c'est intéressant de comprendre que ce mot n'est pas relatif à une foi en quelque chose de supérieur ou autre que le chemin que l'on parcourt ici et maintenant. Donc la première de ces qualités, c'est la foi. Ou la confiance. C'est traduit aussi par dévotion. L'élément de dévotion est extrêmement important dans le bouddhisme. En Occident, il n'a pas beaucoup été importé, mais en Asie, si vous y pratiquez, vous verrez qu'il n'y a pas de chemin véritable sans cette dévotion aux trois refuges. Et naturellement, cet élément-là va s'approfondir alors qu'on chemine sur le chemin. Il y a une compréhension du chemin tellement profonde que naturellement, il y a une spontanéité que l'on s'en remet aux trois refuges. Donc l'élément de dévotion existe et est très fort en Asie. Donc cette confiance a des niveaux différents selon notre compréhension et où on en est dans ce cheminement. Le Bouddha explique qu'en fait, notre foi, en un premier temps, est une foi aveugle. Et il parle de foi aveugle parce qu'on ne sait pas où on va. Et donc, on a beaucoup de peine à réaliser la fin du parcours. Donc, on doit s'en remettre à des textes, à ce qu'on entend, notamment en ce moment. Et le fait de comprendre nous donne un sens, une quête, une disposition pour essayer de cheminer un petit peu plus loin. Et donc le niveau à ce moment-là de confiance est celui où nous vérifions ce qu'on nous dit. La vérification de cette confiance ou de cette foi se fait à travers le cheminement des pensées, de la compréhension intellectuelle. Donc ces deux niveaux se rejoignent avec les deux niveaux de connaissance dont Charles a parlé. Vous vous souvenez? Connaissance l'ivresse et puis ensuite connaissance par rapport à la réflexion. Voilà, donc ces deux niveaux de foi se rejoignent là. Et notamment à ce moment-là, ils font référence au concept, aux pensées. Pour continuer le chemin encore plus loin, la foi s'approfondit, la confiance va s'approfondir grâce à l'expérience directe, on peut dire. C'est-à-dire votre propre compréhension. Une compréhension qui vous vient de votre intuition, de votre réalité, de votre vérité. Et à ce moment-là, cette confiance, on dit qu'elle est non seulement vérifiée, mais elle est absolue. On parle de confiance absolue dans le fait de pouvoir s'en remettre au chemin. Et à ce moment-là, c'est également s'en remettre au dharma, si on veut, non seulement au niveau de l'étude, mais réellement du parcours méditatif, de la méditation, de s'en remettre à la pratique, tel qu'on le fait ici. Donc il y a tout un chemin, si on veut, d'investigation. Et naturellement, si nous débutons, eh bien, nous allons avoir une foi qui sera aveugle pendant un certain temps. Et puis, plus on va s'en remettre, si on veut, plus la source sera approfondie, plus cette dimension de compréhension intuitive va s'approfondir. À ce moment-là, quand il y a cette confiance intuitive, nous voyons et nous comprenons la nature des choses telles qu'elles se situent, telles qu'elles se présentent. Et ceci à même le coussin lorsque vous êtes assis et que tout simplement il y a la compréhension d'une nature de la sensation directe, la conscience et la sensation, sans l'intervention d'une pensée qui dit je suis en train de ressentir la sensation que je n'aime pas, elle est douloureuse, mais il y a simplement ce contact direct, précis, et bien à ce moment-là, c'est un moment de compréhension et de foi, on peut dire, de confiance complète et absolue dans la vérité qui nous présente la nature de la sensation, la nature d'un son, la nature d'une pensée. De voir la pensée pour une pensée nous met exactement à ce niveau-là, c'est rien d'autre. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ça renforce la deuxième qualité et la faculté spirituelle que l'on appelle énergie ou effort. Parce que cette confiance, elle nous donne un immense courage. Il y a un moment donné où nous sommes présentés avec un choix de décider si on va marcher et cheminer en arrière et pas aller plus profondément pour des raisons qui font que peut-être il y a une peur de l'inconnu, une incompréhension de ce qui va peut-être se présenter devant nous. Donc, à ce moment-là, il se peut, et vraisemblablement, à de nombreuses reprises, s'il y a des résistances, s'il y a des manières dont nous distrayons, nous regardons à nouveau à l'extérieur plutôt que de rester simplement présent à soi-même, eh bien, il y a à un moment donné, là, une possibilité de fuite par rapport au présent, de fuite par rapport au contact direct. S'il n'y avait pas ces résistances, certainement que le chemin serait beaucoup plus facile et rapide. C'est à cause des résistances que le chemin prend un certain temps, qu'il faut revenir en retraite, peut-être 3 fois, 4 fois, 10 fois, peut-être 20 ans, 30 ans. Ça dépend, du lot des résistances, mais ce qui va donner la possibilité de dépasser les limites, c'est cette force de courage. Ce courage intérieur qui nous vient lorsque nous avons le choix et nous mettons un pied en avant plutôt que 10 en arrière. Et je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Déjà, en 3-4 jours, il y a tellement de moments où cette sens des limites et de notre solidité intérieure et de notre être tout entier est un peu secoué. Et de ce fait-là, ça demande un certain courage que de cheminer en avant. Il y a aussi l'intérêt. L'intérêt parce que ces moments où on goûte, même s'ils sont très très brefs, même si c'est vraiment des éclairs de lucidité, font que nous sommes encore ici ce soir. Parce qu'il y a la compréhension intuitive de cette valeur de ne pas être à distance de nous-mêmes. Et c'est ce que nous recherchons au plus profond de nous-mêmes. C'est d'être complet, de se sentir dans notre totalité. Et c'est exactement ce que ces moments-là procurent. Et donc, de ce fait-là, nous sommes encore ici, nous n'avons pas plié bagage, parce qu'on se rend compte de la valeur. Mais il y a tout une négociation, tout un parcours que le mental fait avec lui-même, de combien il va être à même de pouvoir s'ouvrir, quelle est la mesure de cette ouverture, et naturellement, la résistance est quelque chose avec lequel on s'engage et qu'il est important de reconnaître. Si déjà on reconnaît ces résistances plutôt que de prétendre qu'il n'y en a pas, nous sommes en chemin. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas besoin de penser qu'on doit être parfait ou autre ou différent ou une autre personne pour parcourir ce chemin. Il s'agit simplement à ce moment-là de reconnaître qu'il y a, oui, une résistance qui a sa forme. Nous avons chacun et chacune d'entre nous nos propres formes de résistance, qui souvent correspondent à nos habitudes dans la vie. Il n'y a pas de doute que vous allez retrouver vos modes habituels. Et puis de voir exactement comment ceci se situe, quel est le parcours, comment vous situez grâce à la présence. C'est la présence elle-même qui va vous permettre de vous rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et là, il y a un élément de sagesse de plus. Mon maître birman disait toujours, il n'y a pas 36 000 chemins, il n'y en a qu'un. Si on n'emprunte pas celui-ci, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. La transformation, vérifie ta transformation. Vérifie s'il y a quelque chose le soir que tu as compris, que tu n'avais pas compris la veille. Et ceci augmente l'intérêt, augmente le courage. Et ça peut être très, très peu, la dimension de compréhension en une journée de méditation. Mais elle suffit pour que l'on puisse entrevoir la possibilité d'une réelle, d'une concrète réalisation qui est celle que l'on ressent véritablement dans l'instant. Et non un imaginaire. Et il ajoutait souvent, il n'y a que dans le présent que nous pouvons réaliser cette nature que nous recherchons. Nulle part ailleurs. Donc, si on a un sens de progrès dans la méditation, je crois qu'il est très important de laisser tomber l'évaluation. Et ça, c'est quelque chose que l'on apprend à faire. Et cette confiance est exactement le laisser tomber, le lâcher prise de l'évaluation du jugement. Et ce que je viens de dire juste avant là, à la fin de la journée, de s'en remettre à peut-être juste savoir ce qu'on a compris, c'est une question simplement d'une réflexion profonde de tiens, Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Qu'est-ce qui m'a surpris aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été quelque chose de révélateur? Ça peut être dans la marche, ça peut être un moment de compréhension par rapport à une pensée, ça peut être même une compréhension psychologique. Mais ceci ne veut pas dire que nous sommes constamment dans l'évaluation. Et ça, c'est ce que nous faisons dans la vie. Nous évaluons, nous jugeons. Et là, c'est un leurre que de le faire, car nous perdons notre temps. Nous ne pouvons pas du tout évaluer la pratique lorsqu'on est complètement en prise avec la réalité. C'est impossible. Voilà pourquoi il y a des entretiens et pourquoi l'entretien a pour but de vous guider d'une manière à simplement rééquilibrer ce qui peut être un tout petit peu déséquilibré par rapport à ce qui se passe en vous-même. Et j'en parlerai plus tard. Donc cette confiance, c'est vraiment une confiance qui a un élément de foi qui n'a rien à voir avec de l'espoir. Souvent, on parle d'espoir, on espère. Et dans cette émanence d'être en chemin, en tout cas pour ma part, il y avait souvent une espérance de recevoir quelque chose. L'espoir nous met dans un futur. Il y a une attente quand il y a de l'espoir. Et souvent, cette attente nous met non pas en phase avec le présent, mais nous met dans l'attente d'un futur meilleur. Et ô combien nous sommes déçus de cette attente lorsqu'elle ne répond pas à l'espoir que l'on s'en faisait. Et donc ça, très souvent en méditation, vous pouvez remarquer qu'il y a soit de l'espoir, on attend quelque chose, ou alors il y a l'inverse qui est la peur. Espoir et peur sont vraiment deux manières, attitudes de nous maintenir dans des résistances. Donc, cette deuxième qualité d'effort ou d'énergie, qui s'appelle virya en pali, veut littéralement dire courage du cœur. Et donc, le courage du cœur, c'est quelque chose qui fait qu'on s'en remet au cœur, on s'assoit dans son cœur pour pouvoir explorer la pratique telle qu'elle se situe, comme elle se présente, et non pas comme on voudrait qu'elle se présente. Et la notion d'effort est quelque chose que l'on apprend constamment. Je crois qu'encore aujourd'hui, quand je suis en retraite moi-même, c'est quelque chose qui ne peut pas être établi une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que l'énergie change. L'énergie, on en a de temps en temps beaucoup, d'autres fois très peu. Il y a de la somnolence, il y a de l'agitation. Donc cet effort doit vraiment être déployé de manière à pouvoir se rendre compte du niveau d'énergie que l'on a au moment où celui-ci est vérifié. Maintenant, l'effort, souvent, et encore récemment, j'ai eu un yogi, un méditant avec lequel on a eu un entretien. Ça faisait 25 ans qu'il pratiquait. Il a pratiqué à AMS, le centre où j'enseigne aux États-Unis. Je crois qu'il a fait à peu près 10 fois des 3 mois, des périodes de 3 mois. Donc, un très bon méditant. Et puis il était à Taos, au Nouveau-Mexique, où j'ai enseigné ce printemps. Et puis on se connaît bien. Puis il me dit, Patricia, c'est invraisemblable. Je crois que j'ai enfin compris la notion d'effort. Après tout ce temps. Et il était tellement content parce qu'il a réalisé que, et je prends cet exemple parce que c'est un exemple qui certainement va parler à nous tous. Il dit, c'est exactement ça. J'ai toujours fait un effort pendant l'assise et pendant la période de méditation en marchant, parfois, moins souvent, mais vraiment déployer un effort à surhumain, pouvoir être présent et à reconnaître chaque instant et rester vraiment présent. Ce qui fait que quand je me levais de mon assise, j'avais plus aucune énergie. Et donc mon temps entre les sessions de pratique, de méditation, était simplement des temps de récupération. de récupération de l'énergie pour la prochaine session de méditation assise. Et ça se passe. Je veux dire, c'est clair que c'est quelque chose de vécu. Je suis sûre que vous pouvez comprendre ça. Peut-être pas toujours. Mais en tout cas, il y a un déploiement de l'énergie qui est à ce moment-là mal employé. Donc, qu'est-ce qu'on entend par continuité au niveau de l'effort? C'est réellement un effort qui demande très très peu d'énergie. Parce que le présent, comme a dit Charles, est donné. Il ne s'agit pas de déployer quelque chose qui fait qu'on cherche autre chose. Il s'agit simplement de demeurer dans l'instant. Si nous sommes fatigués, c'est qu'on essaye de faire quelque chose d'autre. Donc l'effort à fournir est minime. Et un de mes maîtres, Sayadaw Tejaniya, avec lequel on a pratiqué ces derniers temps, demande à tous les méditants de faire un petit exercice pour se rendre compte de la notion d'effort. Et on va le faire parce qu'il est tellement parlant que c'est magnifique. Donc si vous voulez bien, joindre vos mains. Donc vos mains sont jointes. Vous ressentez des sensations dans vos mains? Oui, hein? Comment vous faites pour ressentir ces sensations? Rien? Vous êtes présent? Le contact, là, il est avec les mains. Vous êtes présent aux sensations physiques. Voilà, c'est ça la quantité d'effort nécessaire. En méditation. Qu'est-ce qui fait que on peut ressentir et connaître ces sensations physiques? La présence. La plupart du temps, on est distrait. Si je pense à ce que j'ai mangé tout à l'heure, ou si j'ai une pensée par rapport à demain, ou si je regarde ailleurs, je ne vais pas connaître les sensations physiques qui sont là. Vous êtes d'accord? Donc il s'agit vraiment d'une non-distraction. C'est cette qualité-là d'effort. Très peu d'effort. Donc demandez-vous si vous ne déployez pas trop d'effort, et surtout si vous êtes fatigué à la fin de la journée. C'est clairement qu'il y a quelque chose qui n'a pas joué au niveau de l'équilibre par rapport à l'effort que vous avez fourni. Et donc, ceci s'apprend. Maintenant, l'autre qualité qui est très très importante, c'est que ce que je viens de démontrer est une continuité de présence. Et c'est ce dont on parle. Quand on parle de la présence à chaque instant, c'est cette continuité d'être simplement dans le senti, quelle que soit la chose que vous êtes en train de faire, même si vous êtes en train de boire un thé, si vous êtes en train de marcher, vous êtes aux toilettes, vous êtes en train de vous brosser les dents. Les activités ici sont quand même réduites. Quelles que soient les activités, soyez dans l'activité dans laquelle vous êtes. Et combien on se leurre et on a besoin de l'extérieur, de à nouveau gaspiller l'énergie parce qu'il y a une peur d'être trop concentré et d'aller trop profond, trop vite. C'est la raison pour laquelle il y a tout ce gaspillage d'énergie. Le désir, je suis sûre, le souhait, on l'a d'être présent. Mais il y a tout un pan de nous-mêmes qui ne contribue pas à l'évolution de la pratique à cause de la peur que cela pourrait procurer si vraiment on allait profond. Si c'est le cas, prenez conscience de cette peur ou de ce qui fait que vous êtes présent plus ou moins. Je vais citer là Utejaniya. Donc le Saya doit être lequel on a pratiqué et qui nous a fait modifier un petit peu les instructions. Vous avez certainement dû l'entendre. Il dit, il est nécessaire d'être continuellement conscient, quelle que soit notre position, du moment où vous vous levez jusqu'au moment où vous vous endormissez. Il est important que la conscience reste continuellement en éveil. Quoi que vous fassiez, c'est la présence qui est importante. Ceci nécessite un effort juste. Dans ce contexte, l'effort juste signifie se rappeler constamment d'être présent. Sinon, nous ne le sommes pas. Ce n'est pas l'énergie nécessaire pour se concentrer de manière tendue sur quelque chose. D'être présent ne requiert pas trop d'efforts. Simplement au début, ceci requiert de la patience. C'est vrai que cet élément de patience est très important. Et la patience d'avec les résistances, non pas d'avec les intuitions que l'on peut rencontrer, mais c'est vraiment la patience par rapport à toutes les résistances à être en présent. Et ça fait partie du chemin. Il n'y a aucun doute que le risque que l'on prend nous permet de nous rendre compte exactement où se situe la difficulté et la peur qui peut venir et par rapport à quelle réalité nous avons peur. Peut-être qu'on a peur de perdre le sens du corps, le sens des limites d'un corps. C'est vrai qu'on a les yeux fermés et il se peut que tout à coup il y ait une perception de la dissolution de ce corps qui est assis. Ça, c'est une possibilité qui arrive très souvent chez les méditants. Mais c'est un changement de perception. Le corps, vous allez le retrouver. Il n'y a aucun doute que votre corps ne va pas commencer à se dissoudre en mille morceaux. Mais il y a là déjà une perception qui se transforme, qui change, qui est celle de la réalité. Que c'est simplement un composé. Ou alors, moi je me souviens de la première fois où j'ai réellement pris la pratique à pleine main, avec le courage du cœur, et où j'ai vraiment posé les pieds par terre dans le sens de faire la marche. Et tout à coup, j'ai eu l'impression que le sol fuyait sous mes pieds. Et c'était une impression extrêmement bizarre que je ne connaissais pas du tout. C'était ma toute première retraite. Et c'était vraiment intéressant de voir. Tout de suite, il y a eu la peur, panique. Et je m'en suis remis au maître Sayadaw Pandita en pleurant. Et puis la seule chose qu'il m'a dit, continue, c'est simplement la réalité. Tu es en train de voir la réalité. C'est ça dont on parle quand on parle de l'impermanence. Je veux dire, vraiment concrètement, on commence à vivre un vécu qui n'est pas celui des concepts, qui est celui de la réalité. Mais ce n'est pas une question qui fait que on va vivre dans notre vie à ce niveau-là et qu'on va plus savoir fonctionner ou qu'on va plus pouvoir travailler. Au contraire, il y a une telle liberté dans ce moment où tout à coup, il n'y a plus le filtre du moi, du je, qui interprète et qui encombre l'esprit. Donc ça, ceci se passe en méditation de brefs instants. Si ça se passe, il y a des fois, je les nomme parce que ça arrive et c'est complètement normal que ça arrive. Ça nous permet de réellement comprendre qu'il n'y a pas de contrôle, qu'il n'y a pas vraiment de solidité. C'est le monde, il est fait de multiples cellules, éléments, les scientifiques le disent. Et donc ceci, on le perçoit parfois, à la mesure de ce qu'on va pouvoir rencontrer. Donc cette énergie, elle est réellement toute petite. Cet effort à fournir n'est vraiment pas grand, simplement il est continu. Si on veut approfondir la compréhension du chemin, il y a une continuité dans le sens de chaque instant. Qu'est-ce qu'on développe à chaque instant? L'attention, la présence elle-même. Et ceci est la troisième force spirituelle. Toutes les autres peuvent être en excès ou en manque. L'attention, la présence, cette présence méditative est une qualité d'être qui ne contient tout simplement pas de désir, désir dans le sens d'attachement, pas d'aversion, de rejet, et pas de confusion, dans le sens qu'on n'est pas en train de juger, commenter, évaluer. Donc cette présence méditative a ceci d'extrêmement clair, lucide. C'est une clarté qui nous permet à ce moment-là une connaissance directe. Et je crois que Charles a parlé de ça hier soir. Et donc cette présence méditative, en réalité, elle n'a aucune préférence. Elle est vraiment telle un miroir qui reflète tout ce qui lui vient en son champ de vision. Quel que soit l'objet, agréable, désagréable, neutre, plaisant, déplaisant, elle reflète simplement ce qui se passe et forcément ça change constamment. Donc ça c'est la présence méditative qui n'a absolument aucune idée de pouvoir vouloir ceci et pas vouloir cela. Donc vous imaginez le degré d'équanimité que ceci donne. Il y a un degré de présence qui fait que on peut réellement vivre dans un champ de présence beaucoup plus vaste et qui est certes beaucoup moins réactif. Donc il y a une part de cette présence, de cette pleine conscience qui est active. Et donc cette présence, elle est active dans le sens qu'on doit se la rappeler parce qu'on est perdu, on est distrait, on est dans les pensées, nous sommes complètement ailleurs le plus souvent. Et donc la part active, c'est simplement se remémorer et l'effort, cette énergie justement, elle est de se rappeler de revenir. Ici et maintenant, c'est ici et maintenant que ça se passe, c'est vraiment... Comme dit Jack Canfield dans son livre « Chemin du cœur », c'est comme le petit chiot qu'on rappelle pour être présent. C'est aussi simple que ça. Il y a une très bonne nouvelle, c'est que le mental, lui, et l'esprit goûtent à cet élément de présence. Et ça, je suis sûre que vous avez pu remarquer combien il y a, en quelques jours même, un certain calme qui s'est établi par rapport à l'agitation de notre vie quotidienne, un calme qui s'établit et un naturel spontané d'être dans la présence qui est certes quelque chose que l'on goûte et que l'esprit, que le mental aime. C'est reposant, si ce n'est pas autre chose. Et donc, automatiquement, ce repos, le mental y goûte, il va y revenir et le fait même que ce soit reposant, il y a naturel. La présence devient de plus en plus naturelle. Et l'effet s'inverse. Dans le sens que ce qui devient fatigant, c'est le fait de devoir penser à demain ou à hier et de réfléchir. Et réellement... on demeure en soi-même. Donc, par rapport au chemin, si le chemin est parcouru et qu'il y a suffisamment de confiance et qu'on chemine, l'approfondissement fait que réellement, cette présence devient de plus en plus naturelle. Et donc, à ce moment-là, on voit la nature des choses telle qu'elle se présente. Non pas à travers un filtre qui nous la présente d'une certaine coloration ou d'une autre, mais réellement telle qu'elle se présente. Et l'exemple du son que Charles a employé hier soir est quelque chose qui manifestement nous explique comment ce processus se déroule. Il a sonné le gong, je crois, pour vous faire entendre qu'en fait, conscience auditive n'a pas besoin d'une réflexion ou d'une pensée pour entendre un son. Et donc la présence, elle va nous permettre à ce moment-là de prendre conscience de l'audition sans devoir passer par le fil, tiens, c'est le gong. Ou s'il y a une pensée, parce qu'il y a une telle habitude d'être en train de penser, en second temps, on aura la pensée, ah, le gong a sonné. À ce moment-là, on est conscient du fait que c'est une pensée et non le contact direct du son. Et ceci pour tout type d'expérience. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, on vit d'une manière directe, auditive. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si extraordinaire? C'est qu'en réalité, il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus d'identification à vouloir à ce moment-là que l'expérience soit différente. Il y a une simplicité en réalité du vécu. C'est ce qui permet cette clarté et vous avez pu peut-être même vous rendre compte que l'expérience visuelle, les couleurs, il y a une certaine vivacité grâce au calme, grâce à la perception change parce qu'il y a une pureté de l'esprit qui grandit. Encore plus important, c'est que se dénouent les nœuds par rapport à toutes les attitudes que l'on a d'aimer ceci, de ne pas aimer cela, l'aversion, l'attachement. Tout ceci est vu et il y a une possibilité à ce moment-là de dénouement des nœuds profonds. Donc cette présence intuitive n'a pas de composante d'histoire ou d'analyse ou de commentaire ou d'évaluation. C'est beaucoup plus simple. On peut dire que dans ce moment-là, il y a une absence du « je », du « moi », qui de toute façon est une illusion. Le « je », ce n'est pas qu'on s'en débarrasse. Le « moi », je m'en débarrasse pas. Il n'existe pas. Il n'a jamais existé. C'est un concept qu'on rajoute à notre vécu sensoriel dans la présence. Donc, c'est vraiment passer de la confusion à la clarté lorsqu'on commence à comprendre ceci. Et donc, ces moments où la connaissance directe, par exemple, conscience auditive, conscience gustative, lorsqu'il y a simplement un goût, lorsqu'il y a je goûte quelque chose et qu'il n'y a pas la position de la pensée, je rajoute ci ou ça. Ce moment-là, au départ, est très très furtif. C'est un bref moment, c'est vraiment. Mais vous les avez eus, il n'y a aucun doute. Ces brefs moments, ce qui se passe, c'est qu'ils se prolongent en méditation. Et non seulement en méditation, mais dans notre vie. C'est-à-dire qu'on vit beaucoup plus présent, même dans notre vie quotidienne. Il y a un changement d'habitude. Et donc, c'est pour ça que les retraites sont extrêmement précieuses. Parce que si nous continuons à fonctionner dans les retraites comme on fonctionne à la maison, eh bien, on perd un petit peu de la profondeur qu'on pourrait recevoir. Et la qualité à laquelle vous goûtez ici, elle se prolonge. Il n'y a aucun doute que il y a une qualité de présence qui, peu à peu, vient habiter notre quotidien. Donc l'absence de moi, qui est simplement une construction, perd de sa force pendant quelques secondes. Et ceci, simplement, s'opère de manière répétitive. Peu à peu, on a de plus en plus l'expérience directe. Que lorsqu'il y a une sensation corporelle, il y a un senti de la sensation corporelle. Lorsqu'on fait un pas, il y a simplement le contact de la sensation du pied qui touche le sol. Le fait même d'utiliser des mots ne va pas vous donner le sens de ce que je veux dire. Je suis obligée d'interpréter pour pouvoir communiquer ce que je souhaite dire. Mais je crois que vous avez compris que c'est vraiment la déconstruction du mental et l'élaboration de l'expérience directe, quelle qu'elle soit. Et donc, c'est exactement cet espace que l'on prolonge. Le vécu de quelqu'un qui est libre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus réfléchir et qu'on n'a plus de problèmes à résoudre. Je veux dire, s'il y a effectivement, souvent on nous demande, mais oh, comment je vais faire dans ma vie si j'ai des problèmes à résoudre, on peut toujours réfléchir. Et la connotation même de personnalité est toujours là. Les caractéristiques d'une personne resteront toujours les caractéristiques d'une personne. Si c'est une personne heureuse, joyeuse, souriante, cette personne restera toujours joyeuse, souriante. Et l'exemple que j'ai, c'est le grand maître Dilgo Khyentse Rinpoche avec lequel j'ai pratiqué quelques années jusqu'à sa mort. Et certes, en tout cas pour nous tous, c'était quelqu'un, une personne dite Bouddha. Certainement la manifestation physique d'un Bouddha. Il n'y avait aucun doute là-dessus pour tous. Je veux dire, pour beaucoup de maîtres, on peut se poser la question. Voilà. Là, il n'y avait absolument aucune question. Et il avait toutes ses caractéristiques. Il pouvait blaguer avec les enfants le matin, faire des jeux, être extrêmement bon s'il y avait une personne malade qui venait vers lui. Donc, sa personnalité était très marquante. On pouvait voir une personnalité. Mais il n'en dépendait pas. C'est ça qui change. C'est qu'il y a simplement le fait que la personnalité est là. Il en usait quand il en avait l'envie. Tout le reste du temps, elle était inexistante. Simplement au repos. Et il était simplement dans la présence la plus ultime. Dans la nature des choses telles qu'elles se présentent. Il n'y avait rien de spécial. Donc je vais terminer l'enseignement de ce soir en citant Sogyal Rinpoche qui dit « Le but de la méditation est de nous introduire à ce que nous sommes réellement. À la pure conscience immuable qui est sous-jacente à la vie et à la mort. Dans la tranquillité et le silence de la méditation, nous découvrons et retournons à cette nature intérieure profonde que nous avions perdue de vue. La méditation est de ramener la conscience en sa propre demeure. » Et donc réellement, c'est ça, c'est ce mouvement qui fait que on retrouve l'essence immuable de l'être en son essence. Et c'est pour ça qu'on parle de ne pas aller vers, mais de retourner. Ce côté réceptif de recevoir et de simplement laisser reposer la nature en elle-même, l'essence de l'être en lui-même. À ce moment-là, il y a un vécu de la totalité de l'être. Et c'est la plus grande intimité. Rien ne manque. Ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas établir des liens d'intimité avec d'autres êtres. Au contraire. La manifestation, et c'est ce que disait Dilgo Khyentse constamment, c'est que la manifestation, l'expression à ce moment-là, de l'être est l'amour et la compassion. Tout simplement pourquoi? Parce que ce qui change, ce qui tombe, c'est l'illusion de l'ego, du centre, moi, je. Et à partir de ce moi, je, qui est tellement important et que je place au centre, automatiquement, ce moi, je va créer un autre, une séparation d'avec le reste. C'est cette séparation qui tombe. Et à ce moment-là, la totalité se manifeste et il y a une possibilité de réellement éprouver de l'amour et de la compassion pour tous les êtres sans exception. Et c'est ça la finalité. Donc, dans votre chemin, ici et maintenant, Ne craignez pas, dans la mesure du possible, la perte de votre intimité d'avec vous-même. C'est réellement l'intimité dont vous vous privez si vous reculez en arrière. Et s'il y a de la résistance, à ce moment-là, c'est très important de respecter la résistance, mais de savoir que, oui, vous cheminez avec peut-être la peur de rencontrer quelque chose qui est inconnu. Ça fait partie du processus et de l'ouverture du processus. Tant qu'on ne prétend pas que tout va bien et qu'on reste à la surface, il n'y a aucun problème. Le processus, tout demande à ce moment-là de prendre en compte les résistances, de les respecter, mais de cheminer avec et non pas de les éviter. Voilà, on va s'asseoir en silence une minute. Donc j'ai parlé des trois, confiance, énergie, effort et attention. J'ai aussi parlé de la sagesse parce que c'est clairement ce vers quoi on tend. Et donc demain soir, je compléterai cet enseignement en parlant des deux derniers, qui est la concentration et la sagesse, et combien ces diverses facultés spirituelles s'équilibrent. Il est important d'équilibrer l'énergie et la concentration, la foi et la sagesse. Donc j'en parlerai demain. J'aimerais juste terminer par un poème de Helen Keller qui dit « Respirez simplement et faites confiance. C'est par un courageux lâcher-prise que le cœur est libéré. Ceci est la sagesse de l'insécurité. La sécurité n'est rien d'autre qu'une superstition. Elle ne se trouve pas dans la nature. » Éviter les dangers n'est pas plus sûr finalement que de s'exposer ouvertement. La vie est soit une aventure que l'on risque, soit elle n'est rien. »